À 2 mois de l'expiration de l'échéancier électoral, quel bilan dresser de la mise en œuvre des clauses issues de l'accord de la Saint-Sylvestre pour sortir la RDC de la crise politique? C'est notre thème de ce soir et pour en parler, je reçois Dr Didier Molichaud. Bonsoir docteur.
Bonsoir.
Vous êtes député national de l'opposition et secrétaire exécutif de la plateforme G7, membre du Rassemblement. Professeur Trifon Kinke Moulumba, bonsoir. Professeur Kinke, vous êtes en ligne? Voilà, professeur Trifon Kinke Moulumba est autorité morale du parti pour l'action PA et président de Kabila Désir, parti politique membre de la majorité présidentielle. Professeur Bob Kabamba, bonsoir, vous êtes en ligne? Professeur Bob Kabamba? Voilà, le professeur Bob Kabamba est professeur à l'Université de Liège en Belgique et aussi coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez-les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La mise en application des clauses issues de l'accord du 31 décembre 2016 est diversement appréciée au sein de la classe politique congolaise. Si pour une certaine frange de l'opposition, cet accord n'est pas appliqué, la majorité présidentielle estime que sa mise en œuvre est satisfaisante. Askenzigbia Tayoro nous en dit plus.
À 2 mois de la fin de l'année 2017, échéance prévue par l'accord de la Saint-Sylvestre pour la tenue des élections en RDC, les acteurs politiques congolais n'émettent plus sur la même longueur d'onde. Du côté de l'opposition, les attentes sont focalisées sur la tenue sans embâche des élections à la fin de cette année. Mais d'après plusieurs sorties médiatiques des opposants, le gouvernement mis en place par cet accord ne semble pas rassuré quant à la tenue effective de ces élections d'ici fin décembre 2017. Ce qui a permis d'ailleurs à l'UNC de Vital Kamerhe de sortir de ce gouvernement. Bien avant, le Rassemblement Limité, dans sa prise de position, son président Félix Tshisekedi est allé même loin pour proposer une autre transition sans le président Joseph Kabila. Confirmation de Claudel André Lubaya, président du parti UDA originel et membre du Rassemblement Limité.
L'accord, le principal acteur concerné par sa mise en œuvre ne l'ayant pas signé, l'actuel président de la République. Conséquence, aujourd'hui, l'accord n'a pas d'avenir. C'est pour cette raison une transition sans Kabila s'impose pour que nous puissions créer et trouver des mécanismes qui nous permettent d'aller aux élections.
Le MLC de Jean-Pierre Bemba semble n'avoir plus le cœur en cet accord qu'il a signé. En témoigne la déclaration de son secrétaire général, Eve Bazaïba, qui dans son interview avec Jeune Afrique, affirme qu'ils étaient naïfs de faire confiance à Joseph Kabila en signant cet accord. Mais la majorité présidentielle dit faire confiance en l'accord dont aucune de ses dispositions n'a été jusque-là violée et que personne n'y a retiré sa signature. Député national Patrick André Thierry Kakwata.
Donc l'accord reste inchangé. Vous devez comprendre que même l'accord a eu à mettre une clause toutefois. Il y aura évaluation pour déterminer si réellement nous aurons les élections au 31 décembre. On pouvait les avoir avant le 31 décembre, tout comme après le 31 décembre.
D'autres membres de la société civile ne croient plus à l'accord. Ils disent être déçus de conclusions de la récente tripartite CENI, CENSA et gouvernement qui n'ont pas répondu aux attentes de Congolais.
Professeur Trifon Kinke Moulumba, bonsoir, vous nous suivez?
Oui, je vous écoute.
Merci professeur, nous vous suivons à présent. Vous êtes autorité morale du parti pour l'action PA et président de Kabila Désir, parti politique membre de la majorité présidentielle. Le 31 décembre 2017, c'est dans pratiquement 2 mois. Quel bilan dressez-vous de la mise en application des clauses issues de l'accord de la Saint-Sylvestre?
Oh, écoutez, d'abord je vous remercie. Vous me parlez du bilan. Écoutez, je suis un homme raisonnable, un homme qui n'a pas réponse à tout. J'ignore à quel titre, je vous remercie, vous me conviez à cet échange. Suis-je la personne la plus qualifiée côté majorité présidentielle? J'en sais rien. Les ministres de la Justice ou son collègue de l'Intérieur...
Voilà, nous venons de perdre le professeur Kinkey Moulumba. La réalisation va tenter de le retrouver. Docteur Didier Modichaud, vous êtes député national de l'opposition et secrétaire exécutif de la plateforme G7, membre du Rassemblement. Quel est votre bilan à vous?
Je vous remercie de l'occasion que vous me donnez de participer à ces débats sur le bilan sur la mise en œuvre de l'accord politique global et inclusif. Votre émission étant didactique, j'aimerais commencer d'abord par fixer nos auditeurs sur le titre de l'accord. C'est un accord politique global et inclusif. Tous les mots qui sont utilisés là ont leur importance. Et j'aimerais maintenant expliquer pourquoi tous les mots ont leur importance. Parce que cet accord a été signé par le parti prenante. Et les parties prenantes à l'accord ont été définies dans l'accord. Le parti prenante sont ceux qui ont participé au dialogue de la Cité de l'Union africaine et ceux qui n'ont pas participé au dialogue de l'Unité africaine. Et ceux qui n'ont pas participé au dialogue de l'Unité africaine, c'est le Rassemblement, le Force, le MLC et ses alliés, le Force pour le respect, le Front pour le respect de la Constitution et une partie de la société civile. Et vous comprendrez que ces dialogues a pris un peu plus de temps parce qu'on a cherché l'inclusivité. Et à la fin, nous avons signé l'accord. Quand l'accord a été signé, l'accord engageait les parties prenantes. Et pour mettre en œuvre l'accord, il fallait que le parti prenante, de façon consensuelle, mette en œuvre l'accord. Déjà, dès le départ, aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi que les parties prenantes n'ont pas signé l'arrangement particulier qui devait définir les modalités de mise en œuvre de l'accord. Donc, dès le départ,
c'est déjà le premier couac.
Il y a déjà des problèmes. Et aujourd'hui, dire que l'accord est mis en œuvre, ça serait tout à fait pas correct. Et vous savez que les négociations qui ont conduit à cet accord ont été pilotées par la CENCO. Et vous savez qu'au mois de juin, la CENCO a fait un message. Et la CENCO s'est prononcée sur la mise en œuvre de l'accord. Nous étions déjà au mois de juin, et je peux me permettre d'emprunter les termes qui ont été utilisés par la CENCO. La CENCO disait que la mise en œuvre de l'accord était insignifiante et que les solutions qui étaient proposées étaient de nature à créer des troubles.
Alors, docteur Didier Modichaud, si on devrait aller sur les grandes actions à poser dans cet accord global et inclusif, il y a le CENSA qui a été mis en place avec un animateur à sa tête, il y a un gouvernement avec un premier ministre issu du Rassemblement. Qu'est-ce qui vous gêne? Pourquoi vous dites que l'accord n'a pas été mis en place, mis en œuvre plutôt?
J'ai commencé par vous dire que l'arrangement particulier n'a pas été signé par le parti prenante. À partir du moment où l'arrangement particulier n'est pas signé, ça veut dire que les modalités de mise en œuvre de l'accord n'existent pas. Et vous savez très bien que...
C'est moins pour le Rassemblement.
Non, c'est pour tout le monde. Parce que l'accord est devenu un document public. Il a été rendu public. L'accord a été entériné par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le texte, il est là. Le texte définit les parties prenantes. À partir du moment où les parties prenantes ne signent pas un document, ce document n'est pas un document de mise en œuvre d'un accord global inclusif. Donc, à ce stade, tout ce que je peux vous dire, c'est que il y a une partie de l'accord qui a considéré qu'elle pouvait mener le peuple comme elle souhaite. Et voilà là où on en est.
Et est-ce que si on vous comprenait, docteur, on dirait que de votre point de vue, cet accord n'a jamais connu un début d'accomplissement?
Si on devait me suivre, c'est que l'accord n'a pas été mis en œuvre. Parce que l'accord, pour être mis en œuvre, devait être complété par un arrangement particulier signé par toutes les parties prenantes.
Alors, il y a Didier Serge Mosanga, cet internaute qui dit « Il y a longtemps que l'on devait logiquement ne plus parler de cet accord, car aujourd'hui, au-delà du fait qu'il n'a pas été respecté, il ne nous conduit que vers un trou vide. L'accord a créé encore beaucoup plus de problèmes au lieu de les résoudre, docteur. »
Je ne serais pas d'accord avec lui dans ce sens que, pour nous, nous sommes convaincus que l'accord du 31 décembre 2016, qui est repris par la résolution 2348 du Conseil de sécurité des Nations Unies, reste la seule feuille de route qui peut nous conduire aux élections libres, transparentes et paisibles. Pourquoi nous disons ça? Nous disons ça parce que, dans l'accord, nous avons convenu qu'on ne devait pas modifier la constitution de la République. Nous avons convenu que le président Kabila, qui a terminé ses deux mandats constitutionnels, ne devait pas se représenter aux élections. Dans cet accord, nous avons convenu que pour aller aux élections paisibles, transparentes et équitables, on devait prendre un certain nombre de mesures de décrispation. C'est pour cette raison que nous nous disons, pour aller vers les élections paisibles, transparentes et équitables, ces exigences de l'accord sont encore nécessaires à réaliser.
Il y a certains opposants qui ont été libérés.
L'accord spécifie très bien les mesures de décrispation et dans quel sens elles devaient être prises. Et les modalités sont définies même dans l'accord.
Professeur Trifon Kinkemulumba, est-ce que vous êtes en ligne? Voilà, malheureusement nous ne parvenons plus à prendre contact, à contacter le professeur Kinkemulumba. Bon, s'il nous suit, qu'il nous facilite la tâche. Professeur Bob Kabamba, vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et aussi coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur, quelle est votre analyse à vous par rapport à la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre? Il ne reste que 2 mois.
Oui, merci en tout cas pour l'invitation et pour la question et salutations encore une fois à nos auditeurs ainsi qu'à nos co-débatteurs d'aujourd'hui. Donc je pense que celui qui en parle le mieux de l'évaluation de l'application de cet accord du 31 décembre 2016, c'est finalement l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Congo à la personne de Mamane Sidiku, lorsqu'il fait son rapport au Conseil de sécurité, donc il y a quelques jours, et dans ce rapport, c'est tout à fait très clair que pour les Nations Unies, qui ont fait donc l'évaluation donc de cet accord, pour eux, il est très clair que l'accord n'est pas mis en application pour la bonne et simple raison qu'il y a encore des divergences profondes entre les signataires de cet accord. C'est un premier élément. Deuxième élément, c'est que il constate qu'il n'y a pas d'apaisement constaté ces derniers jours à Kinshasa et dans le reste du pays. L'accord avait été pris pour essayer de faciliter les choses, pour arriver à apaiser la tension politique qu'il y avait en décembre 2016, et pour que le cap de 2016 soit passé et en toute quiétude, et qu'on ouvre une période de transition, et que cette période de transition est censée se terminer avec l'organisation de l'élection. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Donc, on constate que, de manière claire, sans ambiguïté, et donc, ils trouvent que l'accord n'est pas appliqué pour toute une série de raisons, et ce qui est assez assez surprenant de lire, effectivement, dans ce rapport, c'est que les Nations Unies mettre sur le dos du gouvernement justement la non-application de cet accord en disant qu'il revient quand même au gouvernement congolais, c'est-à-dire par rapport à sa compétence de souveraineté nationale, de pouvoir arriver à mettre en œuvre cet accord. Et donc dans le rapport, il est clairement dit que c'est la faute du gouvernement congolais si l'accord n'est pas mis en œuvre. Et en mettant en exergue toute une série de problèmes, notamment liés à la non-adoption de la législation qui sont pour les élections, l'absence des moyens logistiques, la question de financement de ces élections, et pour terminer avec la déclaration du président Nanga qui parle de 504 jours nécessaires pour la CENI pour pouvoir organiser ces élections. Donc on est largement au-delà de ce qui a été convenu. Par ailleurs aussi, il faut se souligner que cet accord devait permettre à ce qu'il puisse y avoir un apaisement et qu'il puisse y avoir une décryptation politique et que les conditions sécuritaires soient plus ou moins rencontrées. Et qu'est-ce qu'on constate? La situation sécuritaire s'est empirée. Plusieurs provinces sont en insécurité, notamment le Nord Kivu, Sud Kivu, Tanganyika, Kasaï Central, Lomami, Congo Central, qui sont en insécurité, avec aussi une application claire au niveau régional, c'est-à-dire que la question sécuritaire a des répercussions dans les pays voisins. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a une augmentation aussi des violations de droits de l'homme, dont plus de 50% de cas de violations qui sont constatés et répertoriés par la MONUSCO sont le fait de la police et de l'armée.
Professeur,
et donc, on a l'impression dans ce rapport, et aussi par rapport à l'évaluation que l'on peut en faire, mais clairement que nous sommes en dehors de l'accord et que la tension politique qui se vit à Kinshasa, malheureusement, elle reste vivace, et que nous sommes dans une espèce d'impasse où il n'y a pas de porte de sortie et où même la MONUSCO elle-même, même au niveau de la communauté internationale,
professeur,
n'arrive même plus à savoir dans quel contexte on est.
Professeur, lorsque je lis le préambule, un paragraphe du préambule de cet accord, il est dit notamment, considérant les divergences au sein de la classe politique ainsi que les risques majeurs de division de la nation face à la crise politique née consécutivement de l'impasse du processus électoral dont la régularité et la continuité ont été interrompues, prenant conscience de la nécessité de la cohésion nationale pour établir la concorde intérieure fondée sur un entendement commun du respect de la Constitution, des lois de la République et des principes démocratiques généralement acceptés. Si je ne m'arrête que là, professeur, on a l'impression vraiment qu'on est à la case de départ et que rien n'a été fait. On a l'impression d'être à quelques mois de décembre 2016 pratiquement.
Vous avez tout à fait raison de pouvoir souligner les préambules. On peut même aller beaucoup plus loin par rapport à ce que vous venez de dire. Quand vous dites qu'on est à la case de départ, on peut aller même plus loin et revenir en 2002, 2003, 2004, et donc on a l'impression que nous revenons de manière claire à l'époque 2003, à l'époque 1+4, où on ouvre encore une période de transition, alors que la période de transition, on était censé ne plus rentrer en RDC dans les périodes de transition, et nous revenons, non pas à la case départ, mais nous revenons à la case 2000, accord de Sand City, où on doit arriver à avoir un nouvel accord, et que cet accord doit être consolidé par une résolution du Conseil de sécurité qui rouvre une période de transition. C'est comme si, depuis bientôt 14 ans, l'ONU, la MONUSCO, le gouvernement congolais, les politiciens congolais n'ont pas évolué d'un pouce. Nous allons revenir à la case départ, c'est-à-dire nous allons revenir à nouveau à refaire une transition, refaire des élections sous supervision de la communauté internationale. Ça aussi, il faut le dire. Et donc, on a l'impression que le Congo n'a pas fait un bond en avant, mais le Congo a fait du son place et que tous les milliards qui ont été dépensés dans le cadre de la MONUSCO, et donc nous revenons à la case départ, et encore une fois, il y aura une prochaine résolution du Conseil de sécurité qui va revenir sur les fondamentaux, c'est-à-dire revenir encore sur une période de transition. C'est comme si, depuis la transition est terminée en 2006, c'est comme s'il n'y a pas eu de fin et que nous continuons dans la même direction. Ce qui est malheureusement le cas actuellement. Et le rapport même du secrétaire national, du représentant du secrétaire général des Nations Unies est manifeste. Et comme on sait que le secrétaire général, donc Mamadou Sidikou, va bientôt quitter son mandat à Kinshasa, donc il laisse un bulletin, je peux le dire, un bulletin tout à fait négatif, avec malheureusement un bilan qui n'est pas positif pour les populations de la RDC.
Merci, professeur. Honorable Didier Molicho, Madame Bazaïba, secrétaire générale du MLC, a déclaré que l'opposition était naïve. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Je ne partage pas ces points de vue. L'opposition n'est pas naïve et n'a jamais été naïve. L'opposition, elle est républicaine et elle aime la République démocratique du Congo, la paix, la stabilité. C'est pour cette raison que nous sommes allés au dialogue. C'est parce que nous ne voulons pas plongé notre pays dans les chaos, dans la crise. Et là, j'aimerais revenir sur ce que le professeur Bob Kabamba vient de dire tout à l'heure. C'est très intéressant. Il fait un rappel historique et il démontre, c'est lui qui les dit et qui les démontre, que depuis une dizaine d'années, c'est comme si il n'y avait rien qui a été fait. Et je pense qu'il a pleinement raison. Et c'est pour cette raison qu'au niveau de l'opposition, nous disons les mêmes causes produisant les mêmes effets. Si vous gardez la même équipe pour diriger ces pays maintenant, nous serons à la case de départ. Donc nous ne ferons rien. Voilà là où je suis tout à fait d'accord avec le professeur Bob Kabamba, mais j'ai voulu seulement ajouter que c'est parce que ceux qui gouvernent le pays ne sont pas respectueux des textes. La Constitution de la République, en son article 69, donne au président de la République des prérogatives de faire respecter la Constitution et de faire de sorte que les institutions fonctionnent. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le dysfonctionnement des institutions. Et quand il y a dysfonctionnement des institutions, il y a un responsable. Et si le responsable ne répond pas de son incapacité ou de son impuissance à agir pour le bon fonctionnement de ces institutions, le pays sera toujours dans le chaos.
François Matumaini de Bukavu vous dit le peuple congolais et sa classe politique sont tous responsables suite à notre naïveté. Il y revient encore. Le bilan est à moitié positif et à moitié négatif selon que l'on est l'un ou l'autre camp, car les divisions de l'opposition ont profité à la majorité présidentielle.
Je ne peux pas parler des divisions de l'opposition. Je peux parler tout simplement de cet esprit de ne pas aimer les pays, parce que la corruption, les débauchages que ceux qui sont au pouvoir ont utilisé pour diviser l'opposition, c'est vraiment des actes répréhensibles. Et là, on est en train de le voir. Ils ont débauché, ils ont dédoublé, ils croyaient trouver des solutions, et voilà que nous sommes à la case de départ. L'opposition reste la vraie opposition, restée unie, et elle est déterminée à conduire le peuple congolais dans sa libération.
Honorable Didier Molichot, il y a pour vous cette réaction que nous allons prendre qui nous vient de Lubumbashi.
David Chéris Moutayoubara depuis Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Le fait pour le président de la CENI de dire qu'il faudrait 54 jours pour organiser les élections nous amène à dire immédiatement que l'accord du 31 décembre ne produira pas ses effets attendus tant par la classe politique de l'opposition que par la population congolaise. Je veux finalement savoir la nature juridique de cet accord. Du moment que l'accord ne sera pas respecté, la publication du calendrier électoral sera également problématique. Quel est le plan B qu'envisage l'opposition si jamais les élections n'étaient pas organisées dans le délai convenu? Comment le fameux article 64 de la Constitution sera-t-il appliqué? Nous espérons qu'avec l'adhésion de la RDC au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, inspirera la majorité à ne pas violer les droits humains lors des manifestations.
Docteur Didier Molichot, quel est le plan B de l'opposition?
L'opposition n'a pas de plan B. L'opposition est respectueuse de la Constitution. Et la Constitution de la République démocratique du Congo est claire là-dessus. Dans son article 64, la Constitution de la République démocratique du Congo stipule clairement que le peuple congolais doit barrer la route ou faire échec à tous ceux qui prennent ou se maintiennent au pouvoir en violation de la Constitution. Là, j'aimerais profiter de l'occasion parce que notre compatriote a soulevé la question de la CENI. Vous savez, une fois de plus, je venais tout à l'heure de parler de l'article 69 de la Constitution. Vous savez que la CENI, de par la Constitution, a l'obligation d'assurer la régularité du processus électoral. Et voilà que la CENI conduit les pays dans une histoire sans calendrier et sans planification stratégique, sans transparence, et chaque jour sort une histoire et il y a un garant du respect de la constitution et des fonctionnements des institutions qui laissent le gens conduire le pays dans le chaos. Le président de la CENI va répondre de ce qu'il est en train de faire parce que ces pays-là, il appartient à 80 millions de Congolais.
Alors, le plan B de l'opposition, honorable Didier Molichou, est-ce que ce ne serait pas cette proposition que vous brandissez maintenant d'une transition sans Joseph Kabila?
C'est ce que je disais tout à l'heure, la souveraineté revient au peuple congolais. Le peuple congolais va s'assumer à travers le respect de la Constitution, c'est-à-dire il va appliquer l'article 64. Pour faire échec à ceux qui mettent le pays dans cette situation de chaos. Et une fois que le peuple congolais aura repli sa souveraineté, on va conduire le pays vers les élections parce que ceux qui bloquent le processus ne seront plus là.
Primo Chaburwa Chenyange dit qu'il y a une mauvaise volonté et foi de tous les hommes politiques qui se regroupent autour des postes à pouvoir au sein du gouvernement plutôt qu'à l'intérêt général du peuple congolais. L'accord est une forme d'escalier dans la politique congolaise pour passer à une étape suivante d'incertitude et de précarité dans un État. Honorable Molichou.
Il n'a pas raison. Je pense que... Il faudrait que, quelque part, on essaie de faire comprendre à la population congolaise que la généralisation n'est pas une bonne chose. La classe politique congolaise est constituée, bien sûr, de gens dont il parle, de gens qui vont utiliser l'accord comme un escalier pour accéder au pouvoir. Et la classe politique est aussi constituée par des gens qui se battent pour le respect de la Constitution. Moi, je viens ou je suis membre d'une plateforme qui se bat pour le respect de la Constitution, pour l'alternance. Dans ma plateforme, les gens ont quitté le pouvoir et ils ne peuvent pas aller par le biais d'un accord chercher à rentrer au pouvoir pour...
Merci.
Oui, merci.
Voilà, la réalisation me signale que nous n'avons pas pu atteindre le professeur Kinke Mulumba, mais plutôt nous remercions l'honorable Crispin Goy qui est en ligne. Bonsoir, honorable.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous venons vraiment de vous prendre à pied levé. Vous êtes député national de la majorité présidentielle, cadre du parti RUDEC et communicateur de cette plateforme. Honorable, pour vous, comment quel bilan vous dressez de la mise en œuvre des clauses issues de l'accord du 31 décembre 2016? Dans deux mois, on sera le 31 décembre 2017.
Bon, vous savez, mon cher ami, cette histoire d'accord, comme tout le monde le connaît, c'est une histoire qui est sortie de la rencontre d'un groupe. Un groupe de politiciens qui se sont réunis au niveau de la CENCO. C'est au niveau de la CENCO, ils vont se tous d'abord. Cet accord, logiquement, quand nous vérifions bien, il y avait les éléments essentiels. Parmi ces éléments essentiels, puisque l'objectif de tout le monde était d'amener le peuple congolais aux élections, et qu'à ce moment passé, il y avait un problème de financement, c'est ainsi que l'élément essentiel, l'élément principal, était que le gouvernement soit dirigé par l'opposition, afin de trouver les voies et moyens, de réunir les moyens qu'il faut pour que nous puissions aller aux élections. Le gouvernement a été mis en place. Dans le gouvernement, il y a l'opposition. Nous considérons que la mise en application est effective. Les autres petits éléments qui peuvent suivre, ce sont que les éléments passagers. Mais l'élément principal était que le gouvernement soit dirigé par l'opposition. Le gouvernement est dirigé par l'opposition aujourd'hui, mais dans le gouvernement, il y a beaucoup de ministres de l'opposition qui travaillent pour amener le peuple congolais aux élections. Les moyens ont été mis à la disposition de la CENI. La CENI a suffisamment avancé. Vous avez vu qu'il a fait déjà l'enrôlement. Il tend déjà presque vers la fin. On est suffisamment avancé pour aller vers les élections. Moi, je ne vois pas pourquoi les gens peuvent continuer à débattre là-dessus tant
que la voie est déjà ouverte vers les élections.
Honorable Crispin Goy, il y a Dr Didier Molichaud qui a tout à l'heure dit que pour le rassemblement, l'accord n'est pas mis en application du moment où l'arrangement particulier n'a pas été signé par toutes les parties prenantes.
Vous connaissez que toutes ces histoires d'arrangements particuliers, ce n'était que les voies et moyens pour permettre à ceux qui étaient dehors d'accéder au pouvoir. Or, l'élément essentiel était tout simplement que l'opposition dirige le gouvernement et qu'il y ait les ministres de l'opposition qui doivent entrer pour qu'on trouve les moyens nécessaires d'amener le peuple aux élections. Ce qui a été fait. Aujourd'hui, le processus est déjà suffisamment avancé. Puisque l'enrôlement est déjà suffisamment avancé. Donc on ne peut pas revenir logiquement sur la non-application de l'accord, puisque l'accord est appliqué à grande partie. Donc l'essentiel est déjà fait, la route est orientée et dirigée vers les élections.
Peut-on considérer, honorable Crispin Goy, que pour la majorité présidentielle, tout va très bien et qu'en ce moment, il n'y a aucune crise politique?
Il n'y a pas de crise politique. Il n'y a pas de crise politique. La voie est ouverte. La voie est ouverte, l'enrôlement est terminé, pratiquement. Donc, dans la partie du Kassai qui est restée, ça va se terminer. Le calendrier sera publié par la CENI et on va aux élections. La crise politique se trouve où? La crise politique se trouve dans les têtes de ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'entrer au gouvernement. La fois passée, le gouvernement Tshibala qui se bat pour entrer. Ce sont ceux-là qui parlent de la crise politique. Mais ceux qui, le Congolais qui travaillent, s'orientent déjà vers les élections. Ceux qui n'ont pas pu entrer, qui cherchent par tous les moyens à entrer. Ce sont ceux-là qui appellent ce qu'on appelle crise politique pour trouver les voies et moyens d'entrer au pouvoir.
Honorable Crispin Goy, nous allons prendre pour vous cette réaction.
John Otiana Shiro, province de Ouélé. L'accord de ces sylvestres est un mort-né. Tout simplement parce que, le rapport final de l'accord a été signé par la majorité et non par toutes les parties prenantes au dialogue. 2. 3 mois de patrouillage après pour la nomination du premier ministre et 6 mois pour désigner le président de Sensa. 3. La mauvaise foi du gouvernement pour donner l'argent à la CENI. 4. La mauvaise foi du gouvernement à libérer les prisonniers politiques. 5. Insécurité délibérément créée par les autorités de Kinshasa dans le Kassai. Face à tous ces éléments, il est toujours normal d'assister à des tensions.
Bref réaction, honorable Crispin Goy.
Merci beaucoup. Et toutes ces déclarations n'engagent que celui qui le prépare. Puisque si vous l'appelez tout de suite, vous lui dites, montrez-moi celui qui a créé l'insécurité dans les Kassai qui habite Kinshasa, il ne sera pas en mesure de vous les donner. La deuxième des choses, si la CENI n'avait pas eu les moyens, il ne pouvait pas continuer à faire l'enrôlement jusqu'aujourd'hui. Donc, cette déclaration, elle est fausse, je balaye. La troisième des choses, le Golesonsa a été déjà mis en place, il fonctionne. Même si la loi organique n'est pas encore là, mais elle est en cours. Vous avez suivi ce qui s'est passé au Parlement. La loi organique est en train d'être travaillée, elle sera en cours. Donc ce que lui déclare, c'est faux, il faut barrer. La quatrième des choses, il parle du gouvernement qui est entré 6 mois après. Je crois que c'est faux et archi-faux. Pourquoi? Puisque lorsque le gouvernement est sorti en décembre, et quelques jours après, il y a le gouvernement Tshibala qui est entré. Donc c'est quelqu'un qui parle tout simplement pour essayer un peu de plaire à ceux qui veulent l'entendre, mais en réalité, il n'a rien dit de vrai. La réalité, c'est quoi? Nous allons vers les élections, le débat est ouvert, la CENI est en train d'enrôler, le gouvernement dirigé par l'opposition est en cours, tout va vers les élections et c'est clair.
Merci, honorable Crispin Goy, on vous garde encore dans cette émission. Professeur Bob Kabamba, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Butembo.
Je suis Kakule Moussaki depuis Butembo. Pour faire un quelconque bilan de l'accord, il faut rentrer dans les motivations du dialogue. Le dialogue ayant été organisé dans le but de sortir le pays de la crise, et c'est en organisant les élections, aujourd'hui le pays est encore en crise. Rien ne rassure que les élections seront organisées cette année. Bref, le bilan est négatif. D'ailleurs, on est tenté de dire que le dialogue était un échec. Quant aux responsabilités, majorité et opposition, toutes deux ont contribué à l'échec de l'accord par le manque de volonté d'une part et par décision d'autre part.
Professeur Bob, qu'est-ce que vous répondez à Josué Kakule?
Oui, merci pour la question qui est fondamentale. Il est clair effectivement que par rapport à la motivation de l'accord du 31 décembre, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'y est pas du tout. Et contrairement à ce que l'on peut penser en disant que nous sommes en train d'aller vers les élections, je réaffirme que nous n'allons pas du tout vers les élections, on n'y va pas du tout. Pour la bonne et simple raison que même lorsque l'on regarde ce qui est en train de se passer, lorsque l'on regarde les communiqués, on lit les communiqués de la CENI, lorsque l'on lit les communiqués du gouvernement congolais et même du gouvernement de la MONUSCO, etc., et on se rend bien compte qu'on ne va pas justement vers les élections, que nous sommes en train de faire du surplace, et qu'on dise qu'il y a l'enrôlement. Oui, il y a l'enrôlement, mais l'enrôlement ne veut pas dire élection, ce n'est qu'une partie du processus électoral. Et l'enrôlement, ce n'est pas dire qu'on a déjà enrôlé 42 millions, parce qu'il faut encore arriver à faire l'audit de ce fichier pour savoir si ce fichier est correct ou pas. Je vous rappelle qu'il y a des parlementaires qui sont déjà insurgés contre les chiffres qui ont été publiés par la CENI en disant qu'il y a des provinces qui seront surreprésentées par rapport à d'autres et qu'il est inacceptable que ce fichier dans l'état actuel soit validé. Et donc, ce fichier tel que l'ONRAD est en train de dire, de se vanter qu'il y a l'enrôlement, mais ce fichier doit être encore audité et on ne sait pas. Demain,
professeur,
on parle de l'audit qui va en découler. Est-ce que ça sera un fichier qui sera fichier ou pas? Ça, c'est l'audit qui va le dire.
Professeur,
de part aussi, il y a tellement de problèmes, il y a tellement de difficultés qui ont été mises en jour par la CENI et que même le président de la CENI lui-même, il dit même s'il dit les 504 jours pour l'organisation de ces élections et qu'il n'est même pas sûr de ces 504 jours. Et donc ça veut dire que nous revenons, pour bien comprendre, hein, c'est-à-dire en 2003, on avait donné une période de transition de 2 ans plus 6 mois que l'on peut encore renouveler 6 mois. Ça veut dire 3 ans. Alors actuellement, si on lit ce qui est écrit, 2016, il n'y a pas eu des élections, il n'y aura pas d'élections en 2017, il n'y aura pas d'élections en 2018, peut-être qu'il y aura des élections en 2019, et donc nous aurons à nouveau 3 ans de transition, comme en 2003, et on va revenir en 2003, et je ne doute pas un seul instant que la MONUSCO, que l'ONU, va encore reprendre une autre résolution, qui va encore revenir donc avec les mêmes prérogatives que la MONUSCO avait en 2003, c'est-à-dire, comme le gouvernement congolais n'est pas en mesure de pouvoir organiser ces élections, eh bien, la MONUSCO, la communauté internationale, va essayer de prendre les choses en main et d'organiser elle-même ces élections et de l'imposer aux Congolais.
Professeur Bob Kabamba,
c'est à quoi on est en train d'aller.
Professeur, compte tenu de tous ces éléments que vous avancez, peut-on parler, comme l'ont dit certains auditeurs, d'un accord mort-né?
Oui, c'est un accord mort-né, et ce n'est même pas moi, ce n'est pas que le débiteur qui le dise. La communauté internationale le dit. La MONUSCO le dit, le secrétaire général des Nations Unies le dit, les États-Unis le disent, et l'opposition le disent, même certains membres de la majorité le disent que l'accord est mort-né parce que tout simplement il n'y a pas d'avancée. Et donc il est très clair que l'accord même, la FINCO elle-même, elle a reconnu que la mise en œuvre pose des problèmes. Et donc on est à la case départ, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, et moi je vous dis qu'on est à la case départ, non par rapport à 2016, mais nous revenons à la case départ par rapport à 2003.
Alors, professeur, comment vous comprenez cette posture de certains cadres de la majorité présidentielle qui estiment que le pays n'est pas en crise en ce moment?
Je ne sais pas dans quel pays ils vivent, malheureusement, mais nous sommes en RDC, nous suivons tous ce qui est en train de se passer, aussi bien à Kinshasa que dans le reste du pays, avec l'augmentation de l'insécurité, avec des poches d'endroits où l'État congolais n'a plus le droit d'accès, malheureusement c'est le cas, et on est dans une espèce de gestion qui n'est même pas une gestion dirigée, où on ne sait pas très bien qui fait quoi, comment, et que la CENI elle-même, elle vous dit qu'elle est incapable dans l'état actuel de pouvoir donner un calendrier électoral, et quand on vous dit ça, et on dit que le pays n'est pas en crise, bien sûr que le pays est en crise. Pourquoi il y a la résolution 2348 des Nations Unies? Parce que l'État est en crise. Pourquoi il y a eu les accords du 31 décembre 2016? Parce que l'État est en crise. Et pourquoi encore l'ambassadrice des Nations Unies, des États-Unis aux Nations Unies est au Congo? Parce qu'il y a une crise.
Merci,
donc,
professeur.
La majorité pense qu'il n'y a pas de crise, mais je sais voiler la face.
Merci, professeur. Honorable Didier Molichaud, après le 31 décembre 2017, quelle sera la validité de cet accord?
J'aimerais d'abord dire à nos compatriotes, parce que vous savez, honorable Crispin, il parle au nom de la majorité. Et dire que le pays n'est pas en crise, c'est vraiment un mépris pour la souffrance du peuple congolais. Et le peuple congolais doit les noter que ceux qui gouvernent aujourd'hui ont un mépris pour leur souffrance. Et quand les gouvernants ont un mépris pour un peuple met fin à cette situation. J'ai dit tout à l'heure que l'accord comporte des éléments essentiels pour conduire le pays vers les élections paisibles et transparentes. J'ai souligné ici qu'il y a les éléments en rapport avec la Constitution qui doit être respectée. Le fait que le président Kabila a fini ses deux mandats constitutionnels et le fait qu'on doit mettre en œuvre des mesures de décrispation. Je suis tout à fait d'accord avec le professeur Kabamba qui affirme ici que la probabilité que les Nations Unies reprennent le pouvoir pour conduire le peuple aux élections, elle devient très grande parce qu'il y a de l'irresponsabilité. Mais c'est grave parce que quand vous avez des gens qui disent qu'il n'y a pas de crise au Congo, alors que la population souffre, alors que l'insécurité est partout, alors que la communauté internationale s'agite, il n'y a que ceux qui sont au pouvoir qui ne voient pas ça, ça c'est grave.
Et en guise de conclusion, honorable Molicho.
En guise de conclusion, je dirais que l'accord de la Saint-Sylvestre contient des éléments essentiels pour nous conduire aux élections et que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, au mépris de la souffrance du peuple congolais, ne veulent pas aller aux élections. Nous en demandons à ce que la communauté internationale nous accompagne comme elle est en train de le faire. Merci. Pour que le pays ne tombe pas dans le chaos.
Merci. Honorable Crispin Ngoï, pour vous, après le 31 décembre 2017, que deviendra cet accord?
Vous savez, mon cher ami, nous ne devons pas nous voiler la face. Mon collègue Didier Molicho qui parle, il est secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle pendant 4 ans. Il ne peut pas aujourd'hui déclarer tout ce qu'il est en train de déclarer. Il faudrait qu'on comprenne que ça ne sert à rien de courir, d'aller très vite, tant que lui, en tant que secrétaire général, adjoint de la majorité, il n'a pas pu. D'ailleurs, c'est à lui qu'il faut interpeller, le peuple congolais doit l'interpeller.
Honorable Crispin Ngoï.
On n'a pas organisé des élections.
Honorable Crispin Ngoï.
Ce n'est pas aujourd'hui qu'il doit se déclarer pour dire que les gens qui sont au pouvoir, mais lui, il est au pouvoir.
Honorable Crispin Ngoï.
Je connais tout ce qui s'est passé.
Au 31 décembre,
nous avons la Constitution dans ce pays. Une constitution votée par le peuple congolais. Cette constitution est claire et ne sera jamais remplacée par l'accord. Si l'accord peut se terminer, il se termine, mais la constitution reste, le pays reste et la vie continue jusqu'à ce qu'on va organiser les élections.
Même en 2019 ou 2020, comme a dit le professeur.
Les accords, il connaît tout ce qui s'est passé. C'est à lui de nous dire qu'est-ce qui s'est entendu, qu'est-ce qu'il était parmi ceux qui se sont réunis.
En guise de conclusion, honorable Crispin Ngoï, pour vous, comment va évoluer le processus politique?
Vous m'avez pris à pied levé, je n'ai même pas salué tous mes électeurs. J'en profite pour saluer tous mes électeurs qui sont en Bougiman, qui sont à cabinet.
Merci.
Et qu'ils comprennent que il ne faut pas que les gens viennent commencer à nous chanter les catombes au 31 décembre.
Merci, honorable.
Au 31 décembre, la vie va continuer. La CENI est en cours.
Merci.
Nous allons aux élections et nous allons doter notre pays de nouveaux dirigeants pour la recherche du bien-être de la population.
Merci, honorable Crispin Ngoï. Effectivement, on vous a pris à pied levé pour remplacer professeur Trifon Kinke Mulumba. Professeur Bob Kabamba, en conclusion, après le 31 décembre, la vie va continuer, dit l'honorable Crispin Ngoï.
Non, je ne pense pas que la vie va continuer. Je pense plutôt que les États-Unis, avec le niveau du Conseil de sécurité, il y aura une nouvelle résolution qui sera prise. Et cette nouvelle résolution va ôter une bonne partie, même si c'est déjà le cas, de la souveraineté de l'État congolais et de pouvoir amener à organiser ces élections pour permettre à ce qu'il puisse y avoir une alternance.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Réalisation Guy Maté, assisté de Kéline Kouté, mise en onde Mimi Kindou, supervision Pédéquipe Pélamondo, présentation et coordination Alain Roumouchinge. Merci de votre attention. Au revoir.